C'est bien. Mais j'avoue que c'est la première fois, depuis que je prépare des messages, où ça m'a tant remué. J'aurais pas pensé. Je me suis dit, c'est un texte qu'on connaît, cette parabole, tout le monde la connaît. Et pourtant, ça m'a vraiment bougé. Donc, ça se trouve dans Jean 15, du verset 1 au verset 7. Ça va s'afficher, j'ai peut-être pas tout à fait la même version, mais bon, on va y arriver, c'est à peu près pareil. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés. Il y a d'autres versions qui disent « Déjà, vous êtes nets à cause de la parole que je vous ai dite, annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Amen. On va s'arrêter là. J'avoue que, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a vraiment bougé quand j'ai pris ce texte. Le cep, tout le monde voit ce que c'est, on est dans une région viticole, c'est un pied de vigne. Et les sarments, ben, c'est les branches qui partent du pied et qui portent les grappes, le fruit. Émondé, c'est un vieux mot qui signifie retrancher, couper les branches en mauvaise santé ou qui risquent de ne pas produire de fruits. Pour laisser plus de chance aux autres qui porteront de meilleurs fruits. Dans le premier verset, Jésus affirme « Je suis le vrai cep ». L'insistance de Jésus pour affirmer qu'il est lui, le vrai cep, ben ça sous-entend une autre vérité. C'est qu'en tant que disciple, en tant que croyant, en tant que chrétien, on peut courir le risque de s'attacher à un autre cep qu'à lui. Le cep, dans la vigne, c'est l'élément principal. S'il n'y a pas de cep, ben il n'y a pas de sarment et puis il n'y a pas de fruits. Et c'est en lui seul que se trouve la vie, Jésus l'affirme. La vie chrétienne, elle se trouve uniquement dans cette source. Par un attachement vital, c'est par ce seul moyen qu'elle peut exister. Un attachement vital à Jésus, à sa personne. Et s'attacher à autre chose qu'à lui, pour vivre sa vie chrétienne, c'est passer à côté de ce qui en fait l'existence même. Cette image, elle n'est pas anodine. Hein. Elle part du principe que ce que nous produisons, ce qui émane de notre vie, c'est le reflet, la manifestation de ce à quoi on est attaché. Ce à quoi nous sommes reliés de manière vitale dans notre cœur, c'est la source des fruits que nous produisons dans notre vie. Jésus a choisi cette image du cep pour définir le type de relation. Il n'agit pas par hasard. Et il l'avait déjà fait dans la parole, on trouve dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe. Je ne vais pas tout le lire, mais c'est dans Ésaïe 5, si vous voulez le regarder. 5, 1 à 7, si je me rappelle bien. Oui, 1 à 7, où il parle d'une première vigne qu'il avait planté. On ne va pas trop entrer dans le détail. Mais ce texte nous dit en gros, et c'est une forme de témoignage, Il nous dit tout l'amour et l'espoir que Dieu avait mis dans cette première plantation, dans ce premier plant de vigne qu'il a planté. Et le texte nous montre à quel point Dieu, en tant que vigneron, a pris toutes les dispositions qui étaient nécessaires pour que ce plant de vigne qu'il a planté, je parle du premier plant de vigne, soit des fruits, produit des fruits d'une qualité extraordinaire. Et pourtant, on le trouve ça dans le verset 7, au lieu de raisins de qualité, la seule chose que Dieu a récoltée, ce sont des fruits pourris. Il est dit au verset 7, « J'espérais l'équité, et voici le crime, la justice, et voici le cri des victimes. » Dans Jérémie aussi, Jérémie le rappelle à Israël, « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plant. Comment as-tu changé ?» Dégénéré en une vigne étrangère. C'est le prophète Jérémie qui s'adresse à Israël. C'est dans Jérémie 2, 21. Je vous donnerai les références après, si vous les voulez. Et la conséquence de cela pour Israël, eh bien, elle ne sera pas brillante. Il n'a pas répondu aux attentes du vigneron. Eh bien, Dieu ôtera la barrière de protection qu'il avait installée autour de sa vigne. C'est dit dans Ésaïe. Pour la protéger des prédateurs, non seulement il cessera de la protéger, mais il cessera aussi de la favoriser. La pluie qui tombait ne tombera plus sur elle. Elle sera plus entretenue. Et pendant plusieurs siècles, Dieu n'a plus sur terre de cep qui portait le fruit qu'il espérait, jusqu'à ce qu'une voix en Israël se fasse entendre. Je suis le vrai cep. Et le vrai cep, c'est Jésus. Je vais essayer de raccourcir parce que j'avais écrit beaucoup de choses, ça m'a tellement bougé que... On le trouve dans Matthieu, Dieu va le dire lui-même, à deux reprises, du haut du ciel, en désignant Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir, ma satisfaction. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. » Matthieu 12, 18. Nous pouvons faire tous les efforts qu'on veut pour vivre la vie chrétienne, de la plus haute qualité qui soit. Mais le seul cep, le seul être que Dieu, en le regardant, peut pleinement se réjouir pour les fruits qui s'y trouvent, c'est Jésus. Séparé de Jésus, on ne peut rien faire. On va faire des choses, mais qui ne porteront pas de fruits, ou du mauvais fruit. C'est la première leçon qu'on doit tirer de cet enseignement de Jésus. Personne d'autre que lui dans le monde n'est le vrai cep. Celui qui possède la vie, c'est le seul et qui peut donner la vie. C'est Jésus. Là, j'ai mis quelques pensées qui me sont vues. La vie, elle ne se trouve pas dans une pratique religieuse. On peut lire la Bible autant de fois qu'on veut. Si nous ne le faisons pas avec cette conscience d'une complète dépendance au cep, à Jésus, pour être nourri, vivifié, les efforts qu'on va faire seront vains. La vie ne se trouve pas non plus dans l'appartenance à un groupe ou à une église. Si cette vie, notre vie, elle n'est pas irriguée par le Saint-Esprit, la sève qui vient du cep, nous serons peut-être physiquement présents au culte le dimanche, mais celui-ci n'aura aucun effet pour nous renouveler, nous régénérer, nous sanctifier. La vie ne se trouve pas non plus dans l'enseignement. Oui, l'enseignement peut véhiculer la vie à la seule condition que notre cœur soit attaché au bon cep, à Jésus. Mais celui qui n'a pas soif de connaître Jésus, d'avancer, de vivre profondément avec lui, ne produira pas de fruits. La vie n'est pas dans un serviteur de Dieu, et c'est là où on fait des fois l'erreur. Fût-il un prophète, quel qu'il soit, même encore à l'heure actuelle, soyons pas que des chrétiens qui suivent des hommes, comme si c'était d'eux et en eux qu'était la vie. Si ce n'est pas Jésus que nous cherchons en premier, nous risquons vraiment de nous retrouver un jour comme ceux qui, dans le désert, ont cru voir une oasis et réalisent qu'en fait, c'était simplement des visions, un mirage qu'ils avaient. Donc restons attachés au bon cep pour ne perdre jamais ça de vue. Ensuite, Jésus dit, vous êtes les sarments, dans Jean 15, 5. Il s'est clairement identifié, il a dit clairement qui il était. Il est le cep, nous sommes les sarments. Et comme le cep font partie de la vigne, les sarments ne sont pas des produits ajoutés à la vigne. Ils en sont des éléments à part entière. Je crois qu'il est impossible de s'appeler chrétien si on n'a pas été véritablement incorporé à Jésus-Christ. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est extérieur à Christ. Mais Paul le dit autrement, c'est quelqu'un qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit Paul. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il ajoute, ça c'est dans 2 Corinthiens 5, 17, « Et j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, dans Galates 2, 20. » Être chrétien, selon Paul, ce n'est pas seulement vivre avec Christ, c'est faire partie de Jésus, de Christ lui-même. Comme le sarment fait partie de la vigne, et la main ou le pied font partie du corps. Sommes-nous conscients aujourd'hui, ce matin, qu'en tant que chrétien, que Christ vit en nous? Le jour où on a donné notre vie, on lui a demandé d'entrer dans nos vies. Est-ce qu'on en est conscient pleinement de ça? Ou on pense seulement être un chrétien comme les autres? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que j'ai écrit d'ailleurs. Est-ce que si on n'en est pas pleinement conscient il faut être conscient, voilà ce que j'ai écrit, que nous ne sommes pas seulement un être comme les autres en tant que chrétiens, parce qu'on a Christ en nous, dans les autres personnes dans ce monde, ceux qui n'ont pas Christ, mais on est une expression du Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ensemble, dit Jésus, nous ne faisons qu'un. Je suis attaché à vous comme vous l'êtes à moi. Ça, scientifiquement, j'ai du mal à l'exprimer, à l'expliquer. Mais je dois l'accepter. Moi, le cep, nous dit Jésus, je possède la vie. Vous, les sarments, vous êtes ceux à travers qui la vie qui est en moi va éclore et porter du fruit. Voilà comment ça marche. C'est notre fonction, notre mission essentielle dans ce monde. C'est dit au verset 8 de cette parabole, « Glorifiez mon Père qui est le vigneron en portant beaucoup de fruits. » Comment le sarment peut-il porter du fruit attendu par le vigneron? Le sarment qui doit porter le fruit, ce n'est pas le résultat de ses propres efforts. Dit autrement, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons porter dans notre vie le fruit attendu par Dieu. Il est dit dans la parole, dans l'épître aux Éphésiens, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la bénignité, la tempérance. Contre de telles choses, ajoute la parole, il n'y a pas de loi. C'est dans Éphésiens 5, 9 et 10. Le texte de Paul répond à cette question du fruit qu'on doit produire. Les fruits que Dieu désire nous voir porter, ce ne sont pas ceux que nous pourrions produire par nous-mêmes, mais les fruits de l'esprit. Les fruits de la sève qui vient du vrai cep, de Jésus. Le sarment ne peut pas produire de fruits attendus par le vigneron s'il est coupé de la vigne. Et Jésus nous indique deux moyens par lesquels il va pouvoir le faire. Le premier moyen, c'est demeurer en Christ. Jean 15, 4, j'ai dit Oh, décidément, ce matin, je m'en mêle. C'est dit dans cette parabole. Et ce mot « demeurer », il le dit à 11 reprises en 16 versets. Donc je pense que c'est vraiment important. Le lien qui unit le sarment au cep, c'est un lien fort, c'est un lien vital. Et c'est pour ça que Jésus dit « demeurez en moi ». On est parfois préoccupé par tant de choses. Jésus nous dit ici qu'il n'y a que la seule chose par-dessus tout laquelle nous devrions nous soucier, c'est que rien ne nous sépare ou ne nous détache de Jésus. On peut traverser bien des tempêtes dans la vie. On peut être déçu par les hommes, par nos frères et sœurs, subir des injustices, ne pas être reconnu pour ce que nous sommes. Toutes ces choses difficiles à vivre, ok, n'ont aucun pouvoir de nous détruire. Si on reste dans notre cœur et notre esprit, un lien vital, et on le sait, qui existe entre Christ et nous. Hors de lui, un rien peut nous faire tomber, nous anéantir. En lui, le pire qui puisse se produire n'a aucun pouvoir pour nous anéantir. Je ne dis pas que ça ne va pas nous blesser, mais ça va nous permettre de continuer, parce qu'il y a ce lien vital. Il y a tellement de... Il le dit aussi, « Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Nourrissez-vous de moi, de mes paroles. » C'est dit dans le verset 7, « Si mes paroles demeurent en vous, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Quelle promesse ! Il ne nous dit pas qu'on va gagner au loto, mais je crois que si on demeure en lui, si vraiment c'est sa pensée qui nous habite, on va prier comme il le veut. Il dit ailleurs de mémoire, il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous avons demandée. C'est dit à peu près comme ça aussi dans la Bible. Le deuxième moyen, c'est l'émondage par le vigneron. Je suis souvenu, je me dirais, si je me trompe, mais chrétien, ça veut dire petit Christ. Et il nous est impossible de ne pas porter de fruits. Du jour où on a donné notre vie à Jésus, dans le verset 2, Jésus dit dans cette parabole, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus, c'est la parole, c'est le début de l'évangile de Jean. Le commencement était la parole était avec Dieu. C'est le début de Jean. Donc Jésus, c'est la parole faite chair. Le jour où on lui a demandé d'entrer dans nos vies, c'est toutes les choses qui m'ont vraiment bousculé, je le savais. Sans même rien faire avant d'avoir véritablement commencé notre vie chrétienne, dès que nous avons été greffés sur Christ, en donnant notre vie, notre cœur, nous commençons par le Saint-Esprit à porter du fruit. C'est ce qui est. Mais Dieu, c'est un bon vigneron. Et le but qu'il a, c'est pas seulement que sa vigne porte du fruit. Vous pouvez parler avec les vignerons. Il se réjouit qu'elle en porte, mais il veut qu'elle en porte toujours plus et du meilleur. Pour cela, le vigneron, il use de moyens douloureux mais radicaux, l'émondage. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'émonder une vigne. J'en ai retenu deux. La première, c'est d'ôter du cep les branches qui sont mortes, celles qui sont là mais qui ne portent aucun fruit. C'est Jésus qui le dit, la première chose que fait le vigneron au verset 2. Et il se peut que pour un temps, certaines personnes fassent partie de l'assemblée, de notre communauté, et puis sont présents parmi les enfants de Dieu pendant un certain temps, comme s'ils en étaient. Puis soudain, il leur arrive quelque chose, une épreuve, une tribulation, une déception, un mauvais choix. Je vais vous dire, moi, ça m'est arrivé. Et j'ai, par ma faute et par mon entêtement, subi 14 années d'émondage. Je n'ai jamais oublié. J'aurais été amnésique d'oublier où Dieu était venu me chercher. Mais il m'a émondé pendant ces 14 années. C'est vrai que j'avais fait un mauvais choix. Mais il n'a pas permis que je sombre. Au contraire, il a émondé. Ça n'a pas toujours été facile, je vous le dis. Et les voilà qui partent, ces personnes. Comme j'étais parti d'une église où j'étais, j'avais l'apparence d'un sarment, je pensais l'être, mais j'avais besoin d'un émondage. la difficulté ou le mauvais choix, moi c'était un mauvais choix que j'avais fait en sorte, eh bien ça m'a permis quand même d'être émondé, rattaché un jour, regreffé à nouveau au cep. J'ai trouvé quelque chose dans les psaumes, il y a des trésors, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. L'émondage dont Jésus parle, ça ne concerne pas le cep, mais ça concerne bien les sarments. Lorsque Dieu, notre Père, se met à émonder les sarments, il ne s'attaque pas à ceux qui ne portent pas de fruits, il les coupe, hein, ceux-là. Mais à ceux qui en portent déjà, et il voudrait les voir encore, je l'ai dit tout à l'heure, il voudrait que ça soit encore du meilleur fruit. Et ça, il le fait dans nos vies, il continue à le faire dans la mienne. Tout ce qui peut m'empêcher d'avancer, m'empêcher de continuer, ben il va le trancher. Des fois, ça fait mal. Des fois, il y revient, parce qu'il fait le tour de la vigne, hein, souvent. Il revient, il recoupe, il retaille, il affûte, mais il nous affine. C'est jamais pour nous conduire dans une catastrophe. Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on soit vraiment... Voilà. C'est l'émondage, c'est pas, j'ai dit, c'est pas une opération agréable pour le sarment, pour nous. L'émondage, il est douloureux. Le vigneron, vous pouvez parler avec des vignerons, il ne taille pas n'importe où. Hein. Il est minutieux, il est ciblé, mais il est aussi efficace pour celui qui s'y soumet. Et c'est là la difficulté qu'on a le plus souvent, c'est de ne pas se soumettre à cet émondage. Mais Dieu revient. Il est ciblé pourtant. L'émondage vise un seul but. Je l'ai dit. Que ce qui accapare inutilement, ce qui nous accapare inutilement dans nos vies, eh bien, soit ôté. Pour que la force qui vient du cep ne soit pas gâchée, mais bien canalisée dans le but visé par le grand vigneron qu'on porte le meilleur fruit. Ce que Dieu émonde sur un sarment, il ne l'émonde pas chez l'autre. Il va émonder dans ma vie quelque chose qui ne va pas émonder chez mon frère ou ma sœur. Parce que c'est précis, il sait, Dieu sait ce qu'il fait. Ce sur quoi Dieu travaille dans ma vie, je viens de le dire, il ne travaille pas sur la vie d'un autre. Mais l'émondage du Père témoigne de l'attachement et de l'importance qu'il donne à chacun de nous, ses enfants. Il travaille de manière amoureuse, attentionnée, passionnée, je dirais, à la vie de chacun de nous, parce qu'il nous aime tellement. Afin que chacun de nous porte le maximum de fruits pour que Dieu soit glorifié, pour que le vigneron ait l'honneur de cela. Et cet émondage que Dieu pratique dans nos vies, ben, il ne se produit pas une seule fois, il se produit de manière répétitive. Et ça sera jusqu'à la fin, je crois. Le Père, comme le bon vigneron, et ben, je l'ai dit tout à l'heure, il fait régulièrement le tour de la vigne. Et il entreprend des opérations, mais qui est toujours pour atteindre le bon but. Et la dernière question qui se pose pour nous, est-ce que nous sommes d'accord pour collaborer à cet émondage avec Dieu, où il travaille dans ma vie, dans votre vie? On n'est pas comme en tant que sarment, le sarment de la vie est un élément passif. Mais nous, on est des sarments, j'allais dire, actifs. On a la possibilité de dire non. Et là, Dieu a cet amour, ce respect. On a un Dieu d'amour qui va nous respecter. Il s'y prendra autrement, il reviendra. Je vous dis que j'ai mis 14 années à comprendre. Mais il y est arrivé. Merci au Père. On a Paul, oui, mais ne résistons pas trop, parce que les temps avancent. Je voudrais terminer avec ça, j'ai un peu raccourci, j'avais écrit d'autres choses, mais je ne voudrais pas me répéter. La seule question qui doit nous préoccuper, suis-je d'accord, je le répète, de laisser Dieu me travailler là où il faut? Suis-je d'accord de collaborer avec lui pour que ma vie porte encore plus de fruits? Que Dieu nous donne, je le terminerai en forme d'une prière simple, que Dieu nous donne en tant qu'assemblée, corps de Christ, mais aussi en tant que membre individuel, que sarment, d'être ici, dans cette région viticole, une vigne qui porte beaucoup de fruits pour la plus grande joie de notre Père, le meilleur de tous les vignerons. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.